Salut Serge.
Salut Martin.
Bon, cette semaine et pas plus tard qu'hier, il y a un nom qui est revenu énormément dans l'actualité concernant la chefferie du Parti libéral du Québec. Ce qui a surpris quand même plusieurs, je pense, c'est le nom d'Alexandre Cusson, maire de Drummondville.
Effectivement. On sait que c'est plutôt tranquille hein, du côté de cette course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Madame Dominique Andelade, qui est la seule candidate déclarée. Madame Risky qui a laissé circuler son nom. M. Barrette qui aimerait bien, mais qui n'est pas très désiré, semble-t-il.
Et qui serait probablement très prêt si Alexandre Cusson se pointe, dit Denis. En tout cas, de ce qu'on a senti de ses commentaires hier, il avait l'air à vouloir l'appuyer.
Oui, mais M. Cusson, écoute, c'est une candidature certainement intéressante. C'est un gars talentueux, il est articulé, mais c'est un bon communicateur. Là. Il est maintenant à la tête de l'UMQ depuis il a fait 2 années, surtout au départ de Bernard. Mais la marche est extrêmement haute. Écoute, il n'a pas été député, il a encore moins été ministre. Et se trouver à la tête d'un parti qui aspire nécessairement à prendre le pouvoir et à gouverner le Québec, je trouve que la marche est très haute.
Oui.
Et je cherchais des exemples dans ma mémoire de chefs de parti qui sont arrivés à la tête de leur parti sans avoir fait un stage comme député ou avoir siégé comme ministre. Écoute, les exemples sont extrêmement rares et il y en a deux qui me viennent à l'esprit. C'est Claude Ryan, suite à la défaite d'Albert Bourassa en 1976. M. Ryan a accédé à la chefferie du Parti libéral après avoir été courtisé par de nombreux militants libéraux en 1977, quand ils ont eu leur congrès pour la chefferie. Mais M. Ryan, écoute, c'est un personnage dans l'histoire du Québec. Il était directeur du Devoir depuis des dizaines d'années.
Connu.
Et il y avait une audience absolument extraordinaire. Il y avait énormément d'influence auprès de tous les gouvernements qui sont succédés. C'est un gars d'une grande envergure intellectuelle. Alors, il y a cet exemple-là. Il n'avait jamais été député avant, ministre. Et il y a Brian Mulroney au fédéral.
Et Mario Dumont. Puis, Mario Dumont, qui est devenu chef par le fait que l'ADQ était là.
Ouais. Effectivement, mais c'était il a créé le parti.
Ben exact. Il s'amenait comme chef.
Et mais il n'y avait pas grand-chance d'espérer d'arriver au pouvoir à ce moment-là. Ça a été des débuts extrêmement limités. Mais effectivement, il a été chef de parti. Il a raison ce point-là. Ouais. Mais M. Mulroney, c'est un autre exemple de quelqu'un qui avait eu un parcours professionnel extrêmement riche. Il était à la tête de la Renault, compagnie minière très importante. Moi, je lui souhaite bonne chance, mais je pense que c'est un peu symptomatique du fait que le Parti libéral du Québec n'est pas attractif, qu'il ne réussit pas à susciter des candidatures d'envergure. Il n'y a pas d'anciens ministres là, qui se pointent, sinon... Madame Andelade,
Mais en même temps, je pense que tout le monde sait très bien dans l'entourage du Parti libéral que ça va prendre du sang neuf, ça prend des gens de l'extérieur, ça prend des gens des régions. Et c'est pour ça que, d'un point de vue, Cusson vient répondre un peu à ça, parce qu'il faut se détacher de l'ancien régime libéral.
Oui, mais on pourrait s'attendre, puis je pense que c'est l'expectative de retour au pouvoir qui est limitée, en sorte que ce ne sont pas à date des candidatures d'envergure. Puis en tout respect pour M. Cusson, je pense que ce n'est pas nécessairement une candidature de très grande
envergure. Mais n'est-ce pas là un scénario qui peut être intéressant, à savoir que pour Alexandre Cusson, ça lui donne un 2-3 ans faire son chemin, parce que là, il ne sera pas élu. Là. À la prochaine élection, on s'entend que le Parti libéral risque fortement pas de gagner à moins d'une tragédie de la CAQ. Là. Alors, ça pourrait le placer peut-être comme chef de l'opposition, faire ses classes.
Écoute, je pense que ce qui pourrait lui aider, c'est au moins de pouvoir être élu à la faveur d'une élection partielle.
Oui.
Parce que là, le gouvernement, il y a juste une année derrière lui. Il en reste pas. Le congrès a lieu au mois de mai.
Mais...
Alors, je pense qu'il faut, si jamais il était élu chef du parti, il faudrait lui souhaiter une élection partielle dans les plus brefs délais, qu'il puisse faire l'expérience de l'Assemblée nationale et d'être là à plein temps. Et d'ailleurs, écoute, il est déjà courageux parce qu'il a renoncé à président de l'UMQ, puis il restait 6 mois à faire parce que normalement, c'est lors du congrès annuel qui a lieu au début mai que les présidents sont remplacés.
Ouais.
Alors, ils renoncent quand même à un salaire de 6 mois que sur une base annuelle rapporte 75 000 $.
Quand même.
Puis il a aussi souligné le fait que il se voyait pas là, assumer sa fonction de maire en même temps qu'il faisait la campagne à
Chefferie. Ah ben non.
Fait qu'il va renoncer là.
J'ai hâte de voir comment c'est concernant la mairie. La présidence de l'UMQ, il a déjà confirmé concernant la mairie.
Il a déclaré lui-même qu'il ne se voyait pas de mener les deux de front. C'est sûr qu'il peut, prendre un congé sans solde, puis sans qu'il y ait nécessairement qu'il y ait une élection. Mais je ne sais pas.
Faudra, il faut que ce soit de courte durée quand même. Ça, c'est intéressant.
C'est ça. Puis là, écoute, je pense que l'activité partisane a lieu, je ne sais pas, c'est un conseil général, je crois, dans deux semaines. Alors,
ça va jouer là pas mal. J'aime bien ton expression rétro-pédalage de la CAQ avec l'immigration.
Effectivement, en fin de journée, vendredi, on a appris à la faveur d'un communiqué du gouvernement qu'ils mettaient au rencor leur projet de règlement. Là, mais là, le bateau, ça coulait de toutes parts. Et je pense que ce qu'on a pu voir depuis, c'est que, bon, il y avait le ministère de l'immigration, mais il y avait également celui de l'emploi et celui de l'éducation qui ont été en cause parce que la fameuse liste qui avait été confectionnée là, pour les 200 quelques formations qui étaient reconnues et qu'on priorisait.
Pour les étudiants étrangers.
C'est ça. Mais ces deux ministères-là avaient aussi leurs responsabilités. Alors,
ça
donne l'image d'un gouvernement qui est empressé, qui est inexpérimenté. Et ça donne l'image d'un gouvernement où les dossiers, en tout cas dans ce cas-là, c'est patent, ça a été très mal coordonné.
Est-ce qu'il n'y a pas une belle leçon aussi de... comment je dirais? Parce que, tu sais, toute l'information, très souvent, là, ça vient des fonctionnaires du ministère.
Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas là un beau message au gouvernement pour se retourner vers leurs fonctionnaires à dire, est-ce que quand on fournit l'information, vous pouvez nous donner ce qui est à jour? En même temps? Est-ce que ça ne vient pas placer un peu plus... les éléments pour la suite du mandat?
Mais tu sais, il y a des chroniqueurs qui suivent l'actualité parlementaire et il y en a qui ont souligné que les drapeaux avaient été levés au ministère de l'Immigration. Et donc, c'était la décision de Jolin Barrette de dire on y va. Alors, bon, on ne saura jamais complètement, là, mais effectivement, il y a certainement eu un certain laxisme chez les fonctionnaires aussi. Là. C'est une faute
qui est partagée. Si les fonctionnaires, eux, ont levé le drapeau pour dire hey, « attendez, là, puis que le ministre est allé à front découvert », ben là, il faut qu'il s'assume.
Ben voilà. Ouais. Et là, je pense que c'était la chose à faire rendue au point où on était.
Ouais.
Puis là, on va faire ce qu'on aurait dû faire en premier, c'est-à-dire consulter puis mesurer les conséquences à la fois sur les individus, les institutions et les entreprises. Sur ce qu'on met de l'avant comme projet, parce que ça a des incidences.
Ben oui, que ça permette aussi de réaliser ce qu'on souhaite avec l'immigration, c'est-à-dire d'attirer des gens qui non seulement seront formés aux normes du Québec, si on veut, là, et qu'en plus, ces gens-là auront eu leur intégration via leurs études. Tu sais, quelque part, là, il y a 1 + 1, ça fait 2, là.
Ouais, ben, je
pense pas trop en échapper, comme par le passé, on a trop échappé, qui sont venus ici avec des études à rabais, puis ils sont partis ailleurs.
Ouais, mais je pense que les objectifs demeurent louables, hein, de mieux arrimer... notre accueil d'immigrants en fonction des besoins du marché du travail, mais il ne faut pas que ce soit un corset trop serré parce que les choses évoluent vite dans le monde du travail, comme on a pu l'entendre ces derniers jours.
Que penses-tu de ce qu'on vit depuis quelque temps avec l'UPAC? Il y a eu le changement de garde?
Oui.
Il y a eu certaines décisions prises sur des enquêtes?
Oui.
Ton regard là-dessus?
Ben écoute, hier, c'était la conférence de presse de l'UPAC. C'est l'exercice annuel qu'ils sont obligés de faire en vertu de la loi. Et j'ai trouvé que le nouveau directeur s'en était bien tiré. Il semble rigoureux. Il m'est apparu comme étant solide. Mais en même temps, on a compris qu'avec les questions des journalistes, que c'était une organisation qui avait encore des faiblesses. Il semble qu'ils ont... Les enquêteurs ont été recrutés à même les autres corps de police.
Hein,
la Sûreté du Québec, certains corps de police municipaux. Et là, ils vont commencer à engager des gens qui vont être sur leur propre liste de paye de l'UPAC. C'était des gens qui étaient prêtés. Et il y avait des gens qui étaient... il n'y avait pas suffisamment d'expérience compte tenu de la difficulté que comporte ce type d'enquête-là. Alors, ils sont en phase de consolidation.
Et assurément, Serge, ça va prendre un certain temps avant que la nouvelle philosophie et que la rigueur soient bien installées dans le travail des enquêteurs de l'UPAC.
Effectivement. Mais je pense que le directeur, il a l'air conscient de ces lacunes-là, puis il a l'air à savoir où il veut s'en aller. Puis déjà, on notait là, que par rapport à 2017-2018, où il y avait eu 874 dénonciations, en 2018-2019, on était rendu à 513. Fait que ça baisse. Puis bon,
mais
c'est un peu normal.
Est-ce que c'est pas avec ce qu'on a connu, justement, que les gens se sont dit on ne se tournera pas vers l'UPAC, on va se tourner vers une autre force policière?
Moi, j'ai l'impression. J'ai plutôt l'impression que c'est le fait qu'il y ait quand même une armée de policiers. Là, parce qu'on se rappelle qu'ils sont 280 travaillant à plein temps sur ces enquêtes-là, l'UPAC. Fait que je pense que le fait que, puis que les médias aient fait abondamment état de tous les dossiers, je pense qu'il y a des gens qui se comportent de manière plus...
Oui, il y a ça aussi. Fait que, tu sais, c'est un peu plus tranquille.
Voilà.
Ah,
voilà.
Il y a des snoreaux qui se tiennent plus tranquilles. Oui, c'est un point de vue intéressant. Serge Paquin, tu as été assez longtemps à la ville de Sherbrooke. À ces semaines-ci où on est en train de réaliser les budgets, que ce soit les budgets d'opération, budgets d'immobilisation. Hier, on apprenait que le budget d'immobilisation prévu pour être adopté lundi prochain était reporté. On nous disait qu'il y avait encore des choix à faire, des réponses. Ça veut dire que le travail est très ardu pour non seulement booker, parce que ça, j'ai écho que c'est pas facile de booker le budget même d'opération, là, celui où on va avoir notre compte de taxes qui vient avec. Mais le budget des immobilisations, ça veut dire qu'il y a du tiraillement autour de la table.
Bien, écoute, on sait qu'il y avait une recommandation du vérificateur général qui était là depuis déjà quelques années, là, à l'effet de devancer le budget d'immobilisation, son adoption, ce qui permettait de commencer à travailler sur les plans et ça accélérait là, la réalisation des travaux pour dans l'année qui suit. Fait que ça, c'est un objectif très clair. Puis je pense qu'il avait fait des progrès à cet égard-là. Puis c'était très bien. Mais là, le fait qu'on revient en arrière finalement puis qu'on adopte le budget de mobilisation
un peu plus tard.
Tard dans l'année, là, on revient un peu à la case de départ. Et c'est certainement symptomatique qu'il y a des difficultés. Et s'il y a tant de difficultés que ça, moi, je pense qu'il y a encore un sérieux problème de leadership. L'exécutif c'est lui qui fait la proposition budgétaire. Je comprends que ça vient des services puis ça passe par la direction générale. Mais c'est le comité exécutif à formuler une proposition finale à l'ensemble des membres du conseil et il doit la vendre aux membres du conseil.
Mais en même temps, si, exemple, là, c'est un scénario, là, parce que, comme on dit, je ne suis pas le petit oiseau qui a circulé dans un corridor là, au moment où ces gens-là... négocient entre eux puis décident de qu'est-ce qui seront les priorités, mais admettons dans le scénario où ce que mettons là que tu as une partie de l'exécutif qui est d'un bord, tu as le maire avec d'autres conseillers conseillères de l'autre bord, puis là tu as comme cet affrontement, écoute, c'est un scénario à laquelle on peut penser là.
Ben écoute,
ça donne une situation qui peut être assez particulière.
Je suis encore politicien, je te dirais que c'est une question hypothétique à laquelle je peux répondre, mais maintenant que je suis chroniqueur, je peux me permettre d'y répondre.
C'est vrai que ça aurait été le genre de réponse que tu m'as
donné. Mais écoute Martin, si une telle hypothèse se réalisait, encore là, ça voudrait dire que le maire manque de leadership pour convaincre les propres membres du comité exécutif qu'il a choisi lui-même. Et écoute, ce serait du jamais vu.
Tu penses? Du jamais vu.
Non, c'est sûr, du jamais vu. Un maire qui est pas... Il n'y a pas de consensus au sein du comité exécutif pour une proposition budgétaire. Non, c'est jamais vu.
En tout cas,
ça devrait jamais se voir, à mon avis, non plus.
En tout cas, je suis certain si...
Il faut que les gens négocient entre eux pour avoir quelque chose d'acceptable.
Ouais.
Pour qu'il y ait un consensus au
comité
exécutif. Parce que sinon, ça annonce mal.
Moi, j'ai hâte de voir, d'ailleurs, les détails concernant le report de ce fameux budget. Bonne semaine.
Salut, Martin.
Merci. Serge Paquin.